Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le révérend, l'avocat et l'écrivaine, ou le livre perdu de Nell Harper Lee. Vous ne connaissez pas forcément cette autrice, mais prononcez son nom aux États-Unis devant n'importe quel Américain, de n'importe quelle génération, et il vous répondra par un sourire, parce que tout le monde là-bas le connaît. Tout le monde, ou presque, a lu son roman « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », publié en 1960, l'histoire d'un avocat qui défend un homme noir accusé à tort du viol d'une jeune fille blanche. Un livre vendu à 40 millions d'exemplaires, lu dans presque toutes les écoles du pays, est devenu film culte. Tout cela fait de Nell Harper Lee l'une des écrivaines les plus célèbres de la littérature américaine. Pourtant, « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » est son seul livre. Oui, l'envie s'est arrêtée après qu'elle a tenté d'écrire sur un fait divers comme son grand ami Truman Capote l'avait fait dans son livre « De sang froid ». Pourtant, elle voulait faire mieux que lui. Et elle avait l'histoire, une histoire vraie, celle d'un révérend accusé du meurtre de 6 personnes. Elle avait la matière, après un an d'enquête. Elle avait le titre aussi, « Le révérend ». Alors pourquoi ? Pourquoi ce roman n'a-t-il jamais vu le jour ? Pourquoi Nell Harper Lee a-t-elle cessé d'écrire ? Cette histoire, c'est aussi le roman noir du vertige de la page blanche. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec Lina, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Jeudi 23 juin 1977, Alexander City, Alabama. Des officiers de police se tiennent à l'entrée le long des travées de l'église de la paix et de la bonne volonté. Ils observent attentivement la foule endeuillée, la main sur la crosse de leur arme. Au pied de l'autel, dans un cercueil en acier, repose un homme, William Maxwell. Ceux qui le connaissaient l'appelaient le révérend. Mais dans tous les comtés de la région et depuis des années, les habitants terrifiés ne l'appelaient plus autrement que par le nom de prêtre vaudou. Devant le révérend mort et celui qui, bien vivant, prononce son oraison, ceux qui ont fait le déplacement ne réagissent pas tous de la même façon. La veuve, la troisième épouse du révérend, les deux premières étant décédées dans des circonstances obscures, pleurent à chaudes larmes. Mais il n'y a à peu près qu'elle qui soit triste. Les autres sont tout simplement soulagés que cet homme soit mort. Ils jettent même des regards inquiets vers le cercueil pour s'assurer qu'il ne bouge plus, sait-on jamais. Parmi tous les pouvoirs magiques qu'on lui prête, peut-être a-t-il aussi celui d'avoir ressuscité. Il paraît que ça s'est déjà vu. Maxwell est à l'image de Moïse, dit le révérend Mardis. C'est un meurtrier et un fugitif à qui Dieu confia la liberté de son peuple. Et le diable n'a pas pu prendre Moïse à Dieu. L'Église lui répond par un amen vibrant. Et le diable, continue le révérend, n'a pas pu prendre Maxwell à Dieu non plus. Cette fois, devant lui, les regards se lèvent, se cherchent avec inquiétude. Et le pasteur Mardis poursuit d'une voix plus grave encore. Alors le révérend Maxwell reviendra sur terre juger ceux qui l'ont jugé. C'en est trop. Sur les bancs de l'église, les hommes et les femmes venus rendre un dernier hommage à William Maxwell échangent des murmures affolés. Puis on entend un homme dire distinctement « Merde alors, j'espère pas ». William Maxwell est mort 5 jours plus tôt alors qu'il assistait à d'autres funérailles. Un homme lui a tiré 3 balles dans la tête. Il fallait arrêter ce révérend que la rumeur disait adepte du vaudou. Parce que cela faisait 7 ans qu'il éliminait tout son entourage sans jamais être arrêté. Une affaire de serial killer qui aurait depuis longtemps été oubliée. Si à 250 kilomètres de là, dans son Alabama natal, l'une des écrivaines les plus célèbres des États-Unis ne s'y était pas intéressée.
Je suis née dans une petite ville qui s'appelle Monroeville, en Alabama, le 28 avril 1926.
Pourquoi les meilleures histoires viennent-elles du Sud ?
Je crois que nous sommes une région de raconteurs d'histoire. C'est dans notre ADN. Nous n'avions pas les plaisirs des théâtres, de la danse ou des cinémas. Nous nous amusions rien qu'en parlant. C'est assez surprenant si vous n'avez jamais été dans une petite ville du Sud. Les gens là-bas ne sont pas particulièrement sophistiqués et loin d'être mondains, mais ils passent leur temps à vous raconter des histoires.
À sa naissance, Nell Harper Lee s'appelait simplement Nell Lee. Et au moment de l'enterrement du révérend en 1977, cette femme de 51 ans est plusieurs fois millionnaire, mais elle ne dépense son argent que dans les billets de train entre l'Alabama et New York. Elle vit cachée. Elle décline la quasi-totalité des très nombreux entretiens qu'on lui demande. D'ailleurs, l'interview que vous venez d'entendre est le seul enregistrement de sa voix que l'on possède. L'argent qu'elle accumule et le succès qu'elle fuit, elle les doit au livre qu'elle a écrit en 1960, intitulé « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». C'est l'histoire de Scoot, un enfant de 6 ans, de Jem, son grand frère, et de Dill, leur voisin. Trois enfants qui observent le père des deux premiers, qui est avocat, et qui défend un jeune homme noir accusé d'un viol qu'il n'a pas commis. La publication de ce livre, en plein mouvement des droits civiques pour les Noirs américains, lui confère un succès spectaculaire. « Ma petite sœur, dit son aîné, que nous pensions devoir soutenir financièrement toute sa vie, elle roule sur l'or. » Peu de choses, c'est vrai, prédestinait cet enfant de Monroeville, une cité de 7000 habitants, à devenir une écrivaine célèbre. Et le hasard a voulu que cette toute petite ville n'élève pas qu'un écrivain de sa renommée, mais deux. Parce qu'un autre géant de la littérature américaine y a grandi, un petit bonhomme étrange qui s'appelait Truman Capote, qui a écrit « De sang froid » et « Petit déjeuner chez Tiffany » et qui, en plus de grandir dans la même ville que Harper Lee, en était le meilleur ami. Il y a 23 ans, si Nell décide de s'installer à New York pour devenir écrivaine, c'est que Truman Capote habite déjà cette ville où il côtoie la société la plus mondaine après avoir écrit son premier roman. Inspirée par son ami, Nell lui emboîte le pas. Elle travaille pour des compagnies aériennes pour avoir de quoi vivre, et le temps qui lui reste, sur un bureau constitué d'une vieille porte posée sur des cageots, elle écrit. Péniblement. « Je suis davantage une réécrivaine qu'une écrivaine, dit-elle. Écrire une page dont je sois contente peut me prendre une journée entière. » Et les journées se transforment en semaines, en mois, en années. 7 ans que Nelly est partie de Monroeville et 7 ans qu'elle n'a jamais rien fait lire à personne. Jusqu'à ce qu'en 1956, son chemin croise celui d'un éditeur qui, quand il lit quelques-unes de ses lettres, lui propose d'écrire un roman. L'idée l'enthousiasme. Mais le temps lui manque. Alors pour Noël, un couple d'amis, les Brown, lui réserve une surprise. Dans le sapin, entre les guirlandes, il y a une enveloppe. À l'intérieur, il y a un chèque et un message qui dit « Tu as un an de congé pour écrire ce que tu veux. » Pour Nell, ce n'est ni plus ni moins qu'une hypothèque sur sa vie.
Les Brown se fichent que je gagne le moindre cent avec ce que j'écris. Ils veulent m'encourager à prendre un tant soit peu mon talent au sérieux. Et le prendre au sérieux détruira tout ce qu'il y a d'aimable dans mon caractère. Mais cela me mettra sur la voie d'un semblant de carrière. J'ai l'horrible sentiment que je vais y arriver.
Et voilà Nell Lee, elle qui écrivait si difficilement, qui s'assied à son bureau improvisé et qui écrit les chapitres d'un livre sans plus aucune hésitation ni souffrance. Jour et nuit, elle ne quitte pas son appartement. En tout cas, elle le quitte juste pour acheter du papier et de quoi se nourrir. L'encombrement qui l'a paralysée a subitement disparu. Alors, elle tape frénétiquement sur sa machine et voit prendre forme au fil des pages qu'elle empile le livre qui sommeillait en elle. Après 7 ans d'échec, elle a écrit un roman en 2 mois. Après des changements demandés par son éditrice, 2 ans plus tard, en 1959, la version finale est prête. Il y a bien Scoot, Jem et Dill, les enfants. Il y a Atticus Finch, l'avocat incorruptible. Beau Radley, le voisin terrifiant. Calpurnia, la gentille gouvernante. Nelly a trouvé le titre également « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Et elle a trouvé le nom sous lequel elle veut apparaître sur la couverture, non pas Nell Lee, mais Harper Lee. Allez savoir pourquoi. En attendant que l'Amérique la découvre, Nell reçoit un appel de son ami Capote. Nous sommes en décembre 1959. Il lui demande de l'accompagner dans le Kansas. Une famille entière a été massacrée et il veut faire un reportage. C'est comme si l'abîme appelait l'abîme, dit Harper Lee. Ce crime l'intriguait. Moi, je suis intrigué par le crime. Et puis mince, je voulais vraiment y aller. Ils ne le savent évidemment pas, mais leur voyage donnera l'un des plus grands romans américains, le modèle du genre True Crime, un best-seller que Truman Capote appellera « De sang froid » et dont il parle à la télé française en 1966.
Parce que ce que je voulais faire, c'était écrire un document. Parce que le livre, je veux dire, le choix du sujet, c'est un accident. Ce que je voulais faire, c'était mêler le journalisme et la technique romanesque. Et je cherchais un sujet intemporel qui me donnerait une large gamme de possibilités. Et puis un jour, j'eus l'idée qu'un crime, n'importe quel crime, me donnerait la structure pour appliquer ces théories littéraires qui sont miennes.
Lorsque Lee et Capote arrivent dans la petite ville de Holcombe, ils veulent rassembler les témoignages des habitants et dessiner le portrait de cette ville, soudainement abattue par un quadruple meurtre. Or, rencontrer des gens terrifiés n'est pas facile, et rien n'aurait pu être fait sans Harper Lee. Parce que là où en Truman Capote les habitants voient un énergumène qui les force à parler, et qui selon certains a tout l'air du meurtrier lui-même, ces mêmes personnes trouvent en Harper Lee en revanche une oreille qui les considère et qui compatit. L'un des enquêteurs le résume bien, Nell était une dame absolument formidable, alors que Truman Capote, ce petit connard, il ne m'a pas fait bonne impression à scène de flic. Mais au fil des mois que dure leur enquête, il apparaît de profonds désaccords entre Lee et son ami. Pour elle, les habitants d'Holcombe sont des personnes sensibles. Pour lui, ce sont des personnages. Et quand les meurtriers sont arrêtés et qu'il transforme son reportage en roman, Capote devient tellement proche d'eux, il les accompagnera jusque leur exécution, qu'elle redoute qu'il en fasse les héros de son roman. Ce qui est le cas. Autant dire que la méthode et le fond de la pensée de son ami ne plaisent pas à Harper Lee. Mais elle lui fournit des centaines de pages de notes, avec l'art du détail qui est le sien. La hauteur des chaussettes de la mère assassinée, l'orientation du miroir dans la chambre de la fille et la couleur des chats du quartier, rien n'échappe à l'œil de Harper Lee. Mais si c'était mon livre, se dit-elle, je ferais autrement. Elle quitte le Kansas, elle est à New York le 11 juillet 1960, quand son livre « Ne tirait pas sur l'oiseau moqueur » paraît. Le succès est instantané. En un an, il se vend à 500 000 exemplaires. Les droits sont vendus au cinéma et elle gagne le prix Pulitzer, la totale. Le film est nominé pour 8 Oscars et en remporte 3, la super totale. Alors que personne ne connaissait Nell Lee en dehors de Monroeville, elle est maintenant une célébrité nationale. Or, la célébrité, c'est tout ce qu'elle cherche à éviter.
Comment avez-vous réagi au succès de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » ?
Ça n'a pas été une surprise. Ça a été comme un coup de massue. Ça a été un grand coup sur la tête. C'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je ne pensais pas du tout que le livre se vendrait. Et j'espérais que les critiques m'infligent une mort rapide et sans pitié. Mais j'espérais aussi que quelqu'un l'aime suffisamment pour m'encourager à continuer.
Dans tout le pays, les journalistes se bousculent, les librairies se battent pour qu'Harper Lee vienne dédicacer son livre. Et tous ceux qui ont quelque part, à un moment croisé son chemin, se rappelle à son souvenir pour partager son succès fulgurant. Mais ça tombe mal, parce que ça lui allait très bien de vivre dans l'anonymat. Voilà maintenant qu'elle doit répondre aux questions incessantes des journalistes, librairies, admirateurs, et surtout à la question qui revient le plus souvent, à quand le prochain ? Quand cette écrivaine géniale offrira-t-elle au monde un autre chef-d'œuvre ? Le livre est sorti depuis un mois que Harper Lee parle déjà, je cite, du cafard du deuxième roman. Alors, elle décline presque systématiquement les invitations et elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Elle se replie sur sa famille, puis sur elle-même, avec l'objectif tout de même d'écrire un autre roman. Mais écrire pour Harper Lee, c'est un travail difficile.
Pour être un écrivain sérieux, vous avez besoin d'une discipline de fer. Vous devez écrire, que vous pensiez ou non en être capable. Chaque jour, seul, sans interruption. Contrairement à ce que croient la plupart des gens, il n'y a rien de glamour au métier d'écrivain. En réalité, la plupart du temps, c'est un crève-cœur.
Harper Lee a gagné des centaines de milliers de dollars avec lesquels elle s'est acheté un vrai bureau et un appartement un peu plus grand où elle tente de se mettre au travail. Sans succès. Non pas qu'elle n'écrive pas, mais ce qu'elle écrit ne lui convient pas. Elle essaye en Alabama, sans plus de succès, dans le Connecticut, à Long Island, dans le Vermont, chez des amis, chez sa famille, mais rien ne fonctionne et elle traîne son angoisse. Il n'est pas question d'écrire quelque chose de moins bien que son premier roman, qu'à force, elle a fini par appeler l'oiseau comme s'il était vivant. Les années passent, ses amis ont arrêté de lui poser des questions. D'ailleurs, ils ne doivent ni parler de l'oiseau, ni lui demander ce qu'elle écrit. Et ses angoisses se doublent de deuil. D'abord, celui de son père, qu'elle adorait, le modèle de son héros, Atticus Finch. Ensuite de son agent, puis de son éditrice, et de son amitié avec Truman Capote ne reste que des bribes abîmées par la jalousie. Pour le plus grand chagrin de Harper Lee, Capote l'a rejeté. Pourtant, en 76, quand il répond à une demande d'interview du magazine People, c'est à elle qu'il demande de l'accompagner. Elle accepte et ne dira qu'une chose aux journalistes, nous sommes liés par une angoisse commune. En 1977, cela fait 17 ans que Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur a été publié. Et personne ou presque ne sait sur quoi Harper Lee a travaillé, ou même si elle a travaillé sur quoi que ce soit pendant tout ce temps. Une éternité. Mais peut-être ses retrouvailles avec Capote lui ont-elles donné des idées, au bout du compte. Parce que l'envie d'écrire lui reprend, figurez-vous. Subitement, oui, aussi forte, aussi puissante qu'elle l'avait été 20 ans auparavant. Il se trouve qu'un homme est passé par là, qu'elle rencontre lors d'une fête à New York. Il s'appelle Tom Rodney, il est avocat, il habite l'Alabama. Il l'a reconnu et il s'est approché d'elle. Et là, il lui a dit « Bonjour, Madame Lee, avez-vous entendu parler de l'affaire du prêtre vaudou ?»
We'll
affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Lundi 26 septembre 1977, Alexander City, Alabama. Le révérend Williams est mort depuis 3 mois. Et c'est le jour de l'ouverture du procès de l'homme qui l'a tué. Dans la salle, les journalistes n'ont peut-être pas vu Neil Harper Lee. Elle s'est assise à l'écart, mais elle se sent comme chez elle. Parce que l'Alabama, c'est chez elle. Et pour écrire son 200 froid à elle, son roman inspiré d'une histoire vraie, à elle, il fallait qu'elle soit familière du décor. Sa relation avec M. Capote a laissé des traces. L'accusé s'appelle Robert Burns. Il a tué le révérend de 3 balles dans la tête devant 300 témoins. Mais il avait ses raisons. Et à Alexander City, comme partout aux alentours, on les partageait ses raisons. Pensez donc, le pasteur était très fortement suspecté d'avoir assassiné 6 personnes dans les 7 années précédentes. Robert Burns, l'homme qui l'a tué, raconte.
Il a tué mon meilleur ami, qui était aussi son neveu, James Hicks, le fils de sa sœur. Puis il a tué son frère, Columbus Maxwell. Tout le monde le savait, tout le monde. Les gens avaient très peur de lui.
Donc, j'ai rendu service. Avant la mort du neveu et du frère de Robert Burns, il y a eu celle de sa première femme, puis de son voisin, puis de sa seconde femme. Tous avaient 2 points en commun. 1, ils étaient des proches du révérend. 2, ce dernier avait contracté des assurances sur la vie de chacun d'entre eux. Parce qu'à l'époque, il était possible de souscrire ce genre de contrat sur la vie de quelqu'un sans que ce quelqu'un n'en sache rien, ce qui revenait, en d'autres termes, à parier sur sa mort. Alors, à chaque décès, Maxwell touchait des dizaines de milliers de dollars. Et à chaque fois, il s'en sortait parce que la médecine légale ne parvenait pas à prouver qu'il y avait eu meurtre et parce qu'il avait à son service un avocat hors pair qui s'appelait Tom Ridney, qui l'innocentait de tous les crimes dont on l'accusait. Ce qui rendait la police folle de rage, évidemment. Elle qui était certaine, comme tout le monde, que le révérend était coupable. Et comme Maxwell était noir et que c'était un pasteur, la rumeur s'était mise à courir qu'il était un prêtre vaudou et qu'il utilisait la magie pour tuer et pour échapper à la justice. Il était, disait-on, le 7e fils d'un 7e fils, ce qui lui procurait des pouvoirs surnaturels et on l'avait vu, dit-on, encore de suspendre des poulets blancs et peindre du sang sur le seuil de sa porte. De plus, il concoctait des poudre mortelle, tuait ses victimes en plantant des clous dans des poupées et, quand il en ressentait l'utilité, se transformait en chat noir. Et il n'en fallait pas plus pour que les braves gens de la région d'Alexander City soient terrorisés, attendant en tremblant la victime suivante. Alors, quand en juin 76, la belle-fille du révérend est retrouvée écrasée sous une voiture et que son beau-père réclame l'assurance, décidément celui-là ne doute de rien, sa culpabilité, alors, ne fait plus aucun doute. Et c'est là, quand la goutte d'eau fait déborder le vase, que Robert Burns, l'oncle de la jeune fille dotée d'un sens aigu du romanesque, décide d'en finir avec le monstre, précisément les jours des funérailles de sa dernière victime.
Quand je suis revenu, après m'être recueilli sur le corps, je me suis assis. Quand lui est revenu et qu'il s'est assis derrière moi, je me suis retourné et je lui ai tiré dessus. Après ça, elle est venue chez moi. Je ne sais pas qui lui a dit où j'habitais, mais elle m'a trouvé.
La femme dont Robert Burns parle, c'est Harper Lee. Et Tom Ridney, l'homme qui l'a attiré sur cette affaire, était l'avocat du révérend avant de devenir celui de son assassin. Et exactement comme il avait réussi à faire acquitter un homme accusé de 5 meurtres, ce drôle de personnage réussit, sous les yeux de Harper Lee, à sauver l'homme qui avait tué le révérend devant 300 témoins. Parce qu'il parvient à faire comprendre au jury que tout le monde voulait la mort du révérend et donc que la seule personne qui n'avait pas eu peur de le tuer ne méritait pas d'être punie. Bien. L'affaire du prêtre vaudou offre ainsi à Harper Lee sur un plateau une histoire fantastique et dans un décor qu'elle adore. Alors, elle s'installe dans un hôtel pour reproduire 17 ans plus tard ce qu'elle avait fait avec Capote dans le Kansas. Et elle rencontre des dizaines de personnes sous l'œil de l'avocat, ravi pour sa part d'avoir sorti de son sommeil l'une des plus grandes écrivaines du pays. Elle reste un an, mais elle est loin de récolter la matière qu'elle espérait. Le révérend a tellement terrorisé les environs que les gens craignent qu'il leur jette des sorts depuis l'au-delà. Il y aurait une lumière la nuit flottant au-dessus de sa tombe et certains assurent l'avoir vue au volant d'une voiture et même dans un bureau de vote. Les témoignages sont toujours farfelus quand ils ne sont pas complètement faux. Mais Harper Lee a été très dérangé par les inventions que Capote s'est permises dans son livre « De sang-froid ». Et si elle écrit un ouvrage du même genre, elle veut que tout soit vrai. Or, elle comprend vite que Maxwell n'était absolument pas un adepte du vaudou, mais qu'il avait, dit-elle, une foi profonde et indéfectible en l'industrie de l'assurance-vie. Après un an d'enquête, elle rentre à New York pour écrire. Toujours dans la seule interview sonore qu'elle a donnée, en 1964, elle parle de son rapport à l'écriture.
Sur quoi avez-vous travaillé depuis Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ?
Je travaille sur un autre roman. Et comme pour l'oiseau moqueur, je vais très lentement. Je travaille lentement et sûrement. Vous savez, il y a tellement d'écrivains qui n'aiment pas écrire. Ils s'en plaignent, ils détestent écrire. Ils le font sous la contrainte et c'est ce qui fait d'eux des artistes. Mais ils n'aiment pas du tout s'asseoir et transformer leurs pensées en phrases. Mais moi aussi, j'aime écrire. Et parfois, j'ai peur de trop aimer ça. Parce que quand je me mets au travail, je ne veux plus en sortir. Et je travaille pendant des jours sans quitter là où je me trouve. C'est étrange.
Tous ceux à qui Harper Lee parle de sa nouvelle histoire trépignent d'impatience et lui assurent qu'elle fera un best-seller. Alors, après toutes ces années, elle écrit un nouveau livre. Mais quand on écrit, dit-elle, on dépend entièrement de soi et de personne d'autre. Elle est prête pour ce livre qu'elle imagine déjà s'appeler Le Révérend. Et tous les jours, elle s'assied à son bureau pour transformer son histoire en roman. Elle dispose de la quantité astronomique d'informations qu'elle a glanées, mais combien d'entre elles sont vraies ? Et ce n'est pas le seul problème. Quel personnage principal doit-elle prendre ? Sûrement pas le révérend, ni son assassin. Et l'avocat Tom Rainey semble trop intéressé pour que sa démarche soit honnête. Harper Lee est déconcertée. Elle ne voulait pas faire comme Capote, écrire un roman en arrangeant la réalité. Non, elle voulait que tout soit l'écho du réel. Mais le réel n'est pas assez honnête pour elle. Et pour couronner ses désillusions, Harper Lee reçoit de menaces. Parce qu'elle est persuadée d'avoir identifié une complice du révérend. Et elle retombe dans ses travers. Ainsi, chaque jour, l'enfonce un peu plus dans un dédale d'angoisse. En janvier 79, elle écrit une lettre à son ami, l'acteur Gregory Peck, qui incarne son héros, Atticus Finch, au cinéma.
C'est étrange, mais les personnes qui ne font pas partie de notre monde, les arts, comme on dit, ne s'imaginent pas l'immense solitude qu'il implique. Écrire est facile. Il suffit de fixer la feuille blanche devant vous jusqu'à ce que des gouttes de sang perlent sur votre front. Quand j'écrivais mon premier roman, ça n'intéressait personne. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir constamment quelqu'un sur le dos. Mais je refuse d'abandonner ce truc tant qu'il n'aura pas atteint un certain niveau d'excellence. Mon agent veut du sang et des autopsies. Mon éditeur veut un autre best-seller. Et je veux avoir la conscience tranquille, c'est-à-dire ne pas avoir l'impression d'avoir escroqué le lecteur.
Tom Rainey l'appelle tous les ans et vient la voir à New York. « Où êtes-vous du révérend Nell ?» lui demande-t-il. Et c'est toujours une nouvelle explication, une nouvelle complication, une nouvelle excuse. Elle travaille, mais elle n'avance pas. Et en plus des informations bancales et de menaces, elle boit. « Je crois que sa vie est le terrain d'un combat entre le livre et la bouteille de scotch », dira Tom Rainey. « Et c'est le scotch qui gagne. » Exactement comme l'envie lui était retombée dessus comme la foudre quand Tom Rainey lui avait parlé du prêtre vaudou, ses angoisses, momentanément dissipées, l'ont rattrapée dès qu'elle s'est retrouvée seule face à sa machine. Alors elle lutte pendant des années. Depuis 20 ans, elle n'a jamais été aussi proche d'écrire un livre. Mais le coup de grâce parvient 6 ans après être rentré d'Alexander City, le 25 août 1984. Truman Capote meurt.
L'écrivain américain Truman Capote vient de mourir à Los Angeles à l'âge de 59 ans. On l'a retrouvé mort dans la maison d'une de ses amies où il passait le week-end. On pense qu'il a dû absorber une trop forte dose de barbiturique dont il faisait depuis des années une consommation impressionnante. Truman Capote était l'un des écrivains américains les plus célèbres du dernier demi-siècle. Il est très, très connu en outre pour son non-conformisme et même son excentricité.
Mon vieil ami, dit tristement Harper Lee au téléphone quand elle apprend la nouvelle. Le drôle d'enfant avec qui elle avait grandi, le jeune homme qui l'avait attiré à New York et qui lui avait donné envie d'écrire, l'écrivain avec qui elle avait travaillé à l'un des plus grands romans américains, l'ami à qui aussi elle a passé sa vie à se comparer, Truman Capote, est mort. Et avec lui, disparaît la raison pour laquelle elle écrit. Alors, quand un écrivain la contacte un jour parce qu'il veut lui aussi écrire sur l'affaire du révérend, Nell Harper Lee saisit l'occasion pour abandonner définitivement son livre. Elle le lui dit dans une lettre.
1. J'en sais probablement davantage que quiconque sur les activités du révérend Maxwell. 2. J'ai accumulé assez de rumeurs, fantasmes, rêves, conjectures et purs mensonges pour écrire un volume de l'Ancien Testament. 3. Je n'ai pas assez de faits bruts au sujet des crimes pour y consacrer un livre entier. 4. Les propositions d'informations en échange de contributions monétaires que j'ai reçues, parfois de sources peu fiables, s'étendent de Cottage Grove à Deadville et au-delà. 5. Il n'existe pas de bande magnétique assez longue pour mesurer la vanité humaine.
Nell Harper Lee est décédée le 19 février 2016 à l'âge de 89 ans à Monroeville, où elle est née. Tom Rainey, mort 5 ans plus tôt, il avait abandonné l'espoir de voir un jour paraître ce livre dont il était le héros. Harper Lee avait arrêté d'écrire. Il ne reste de traces de son travail de 10 années que les premières pages qui n'ont jamais été publiées. Le reste, s'il a existé, personne ne sait ce qu'il est devenu. On ne sait rien de ce que la plus célèbre écrivaine américaine a écrit après son succès. En vérité, à la mort de Truman Capote, Nelly avait bel et bien décidé de rester l'écrivaine d'une seule œuvre. Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Nell Harperly avec notre invitée Isabelle Auxerre, romancière et traductrice. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez traduit « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » qui a été réédité en roman graphique chez Grasset en 2018. Vous qui êtes romancière, alors avez-vous une explication sur le silence de Nell Harperly après la publication de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » Qu'est-ce qui fait, parce que quand même la question qu'on se pose est la première qu'on se pose, hein, qu'est-ce qui fait dans la vie d'un écrivain qu'il s'arrête totalement d'écrire? Vous me direz, ça dépend des écrivains, autant de raisons que d'écrivains. Mais pour Nell Harperly,
bah, si vous voulez, je dirais qu'elle avait conscience d'avoir écrit un chef-d'œuvre et qu'elle pensait qu'elle ferait jamais mieux, que tout ce qu'elle pourrait écrire ensuite serait moins bien, que ça serait l'objet de critiques. Et je pense qu'elle a essayé, qu'elle s'est aperçue que ce n'était pas à la hauteur de ses attentes et qu'elle a laissé tomber.
Mais c'était par rapport à elle, par rapport à l'évaluation qu'elle faisait elle-même de sa propre écriture ou par rapport au milieu de l'édition qu'elle n'a pas voulu en écrire un deuxième?
Je ne pense pas que ce soit le milieu de l'édition. Enfin, votre émission le dit très bien. Elle travaillait lentement, elle n'était jamais contente de ce qu'elle faisait. Donc elle avait beaucoup d'exigences envers elle-même. Et donc, si elle a essayé, après, je pense qu'elle a essayé, elle s'est dit que non, elle ne referait jamais quelque chose d'aussi bien que ne tirait pas sur l'oiseau moqueur.
Et on sait si ces archives sont conservées quelque part et qu'il y aurait une chance pour qu'on trouve un jour, qui sait, un roman inédit de Nell Harperly.
Bah, on a trouvé la première version de l'oiseau moqueur qui a été publiée il y a quelques années, mais qui n'était pas un nouveau roman, qui était la version initiale de l'oiseau moqueur, qui a été publiée en français sous le titre Va et poste une sentinelle, qui en fait se situe quelques années après Scout est devenu adulte et son père est totalement différent de l'Atticus de l'oiseau moqueur. Mais c'est pas un autre roman, c'est un roman qu'elle a abandonné parce que je pense que son éditrice ou son agent lui a dit qu'il fallait plutôt se concentrer sur la partie souvenirs d'enfance parce que c'était là-dessus qu'elle était très bonne.
Alors vous avez vécu aux États-Unis, je crois. Hein. Oui. Donc pouvez-vous nous expliquer à la lumière de cette expérience aux États-Unis pourquoi Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur a eu un tel succès? C'était quoi les ingrédients du succès?
Bah, c'est, si vous voulez, c'est la force du droit, je dirais. C'est très important pour les Américains. Enfin, peut-être pas pour Donald Trump, malheureusement, mais pour les Américains qui sont pétris de juridisme. D'état de droit, c'est très important. Et au fond, ce qu'elle fait dans l'oiseau moqueur, c'est autour de son procès qui est au centre du livre, c'est montrer justement que les citoyens devraient être égaux devant la loi. Et s'ils ne le sont pas, c'est dans le sud des États-Unis, c'est notamment à cause de la prégnance du racisme.
Bien sûr. Et ce titre, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Parce qu'un titre, ça veut nous dire quelque chose, souvent, ça annonce la couleur, pas toujours, hein, mais ça peut, et là, en l'occurrence.
Allez-y.
Oui, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, ce titre. Pourquoi ce titre-là? Qu'est-ce qu'il faut voir dans ces mots-là, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur?
Ce qui compte, c'est l'oiseau moqueur, parce qu'il y a deux personnages qui sont l'oiseau moqueur. Bob Bradley, d'une part, et Tom, le noir incriminé à tort. Il ne tirait pas sur l'oiseau moqueur, c'est le père de Scout, Atticus, qui donne des carabines à ses enfants en leur disant « Mais ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Vous pouvez tirer sur tout ce que vous voulez, mais pas sur l'oiseau moqueur. »
Alors, au bout du compte, est-ce qu'on peut d'ailleurs répondre à cette question? Parce que peut-être que la réponse est très intime et n'appartient qu'à elle. Pourquoi a-t-elle eu autant de facilité à écrire ce livre? 2 mois, hein, alors qu'avant et après, elle était incapable de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au-delà du fait, vous m'avez dit au début, parce qu'elle a senti qu'elle ne pourrait jamais faire mieux. Mais pourquoi? Alors, je repose la deuxième question. Pourquoi aurait-elle senti qu'elle ne pourrait pas faire mieux? Qu'est-ce qu'il y avait dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qui était si porteur? C'était un peu autobiographique, pardon, parce que ça se passait dans une petite ville d'Alabama.
Il y a ça, les souvenirs d'enfance. Il y a le droit, je vous ai parlé tout à l'heure. Mmh. Je pense qu'elle a eu conscience aussi qu'elle écrivait un roman totalement ancré dans le sud des États-Unis, mais qui avait une résonance universelle. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça dont elle a dû se dire qu'elle n'en était plus capable. Vous voyez ?
Ah oui, c'est en fait la situation qui s'est imposée à elle, qui était forte, qui lui permettait de dire beaucoup de choses, dès lors qu'il n'a pas d'autres situations, elle ne se sent plus portée. Donc ce ne serait pas une histoire de talent, en fait.
Vous savez, avant de venir à cette émission, je me suis un peu posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres auteurs qui n'ont écrit qu'un seul roman ?
Oui, c'est vrai.
Et un seul roman connu. Et par exemple, dans le sud des États-Unis, vous avez Margaret Mitchell avec Autant porte le vent. Elle n'a pas écrit autre chose.
Et on sait pourquoi elle n'a pas écrit autre chose. Non, parce que c'est mystérieux. Je creuse un peu parce que ça me paraît tellement mystérieux, ça.
Bah, non, si vous voulez, parce que maintenant, on écrit trop.
Ah oui.
Je pense aussi. On publie trop.
C'est façon
de
voir les choses, oui.
Mais il y a des tas de gens. Alors, il y a ceux qui sont morts jeunes, évidemment, ils n'ont pas eu le temps d'écrire, comme Alain Fournier avec son grand moule. Mmh. Mais vous avez des gens, par exemple, les Liaisons dangereuses. Chaudarlot de la Clos n'a rien écrit d'autre, parce que ça ne l'intéressait plus d'écrire. Il avait écrit ce qu'il avait à écrire, et puis c'était fini.
Ouais. Comme certains chanteurs qui chantent, qui sortent un disque, et puis on s'en souvient, et puis ils n'ont rien fait d'autre. Bien, oui. À propos de chanteurs et de disques, on va écouter Jean-Louis Murat, si vous voulez bien, qui chante Battlefield, et on se retrouve juste après.
Quand le mot s'en vient comme un torrent, en mon cœur prisonnier du courant, je voudrais chanter l'amour trouvé. Ouh, 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 oui. Que fais-tu, amour, sur le palier? Quand sais-tu, amour, je suis trompé? Je voudrais chanter le mot trouvé. Ouh, 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 oui. Fini Battlefield.
Sensible, Fabrice Drouel.
Isabelle Auxerre, nous parlons avec vous de Nell Harper Lee et de son livre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, son livre unique. Alors en 2015, dont 55 ans après la sortie de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, il y a eu une grande sensation aux États-Unis, puisqu'un roman inédit de Nell Harper Lee a été publié en librairie. De quoi s'agit-il ?
Alors, ça s'appelle en français « Va et poste une sentinelle » et c'est la première version de « L'oiseau moqueur » qui se passe bien des années après « L'oiseau moqueur » puisque Scout est une femme adulte et qui revient chez elle voir son père vieillissant, et son père vieillissant, Atticus, qui dans L'Oiseau moqueur est une espèce de l'incarnation de l'avocat américain idéal, est en fait devenu à présent un homme qui est proche des idées du Ku Klux Klan. Et si vous voulez, ça donne, quand on lit ce livre, on se dit, mais qu'est-ce qui lui a pris d'écrire ça? Alors qu'après, elle a fait d'Atticus un personnage absolument extraordinaire, tellement extraordinaire que bon nombre d'avocats américains disent que c'est en lisant ce livre qu'ils ont eu la vocation.
Alors, qui est responsable de cette opération?
Alors, est-ce que c'est l'agent? Est-ce que c'est l'éditeur, l'éditrice? Je ne sais pas. Ça, honnêtement, j'en sais rien. D'abord, j'en sais rien parce que personne ne savait que ce manuscrit avait été conservé. Il a été retrouvé par l'avocate d'Harper Lee après la mort de la sœur d'Harper Lee, qui était son avocate jusque-là.
Oui, mais du vivant d'Harper Lee.
Du vivant d'Harper Lee.
Qui n'avait peut-être pas toute sa tête. Est-ce qu'elle a été manipulée? Vous ne savez pas ça?
Alors, elle n'avait sans doute pas toute sa tête. Elle était dans une maison de retraite et après, je crois, un AVC ou plusieurs AVC. Il y a eu, malgré tout, peut-être pas un procès, mais une enquête qui a été faite pour voir si elle avait sa tête ou non et qui a conclu au fait qu'elle avait tout à fait ses esprits. Mais je ne suis pas bien sûre, parce que je pense qu'elle n'aurait jamais voulu que ça soit publié. Si elle l'a pas sorti, c'est qu'elle n'en a été pas satisfaite. Je reviens toujours sur mon explication, mais je pense qu'elle avait une haute idée de ce qu'elle devait et de ce qu'elle pouvait faire.
Oui, donc on peut imaginer que effectivement c'était une opération qui a été menée peut-être contre sa volonté. Que sait-on de sa vie hors écriture, la vie de Nell Harper Lee? Quel genre de femme elle était? À quoi passait-elle ses journées? Quelles étaient ses passions? Qu'est-ce que vous savez d'elle?
Rien. J'avais aux États-Unis un ami qui la connaissait un peu, que j'ai beaucoup interrogé, mais au fond, il savait rien non plus.
J'aime bien. Qu'est-ce que vous savez d'elle? Bah, rien.
Très mystérieux, en réalité. On sait que, par exemple, elle allait souvent au restaurant avec sa sœur, toujours le même restaurant, vous savez, un diner, comme on dit, aux États-Unis. Et surtout, elle ne voulait pas qu'on vienne l'embêter. Elle était là, incognito, même si tout le monde savait qui elle était.
Donc, il est clair aussi que si elle a écrit qu'un livre, enfin, on le dit dans le récit, et c'est ce que vous me dites là à l'instant qui me fait penser à ça, elle a horreur de la notoriété. Elle sait aussi que si elle écrit un deuxième livre et qu'il est bon, même s'il est moins bon d'ailleurs, ça peut marcher, et que ça va recommencer tout ce système d'interview, tout ça, ça a dû compter aussi, non?
Je pense aussi qu'elle devait être relativement timide et qu'elle n'aimait pas s'exhiber.
Oui, évidemment, ça tombait mal.
Et oui, elle n'était pas faite pour notre époque d'exhibitionnisme, ça c'est sûr.
Si elle connaissait la dictature de la transparence d'aujourd'hui, alors oui. Là, elle la connaît un peu. Hein. Truman Capote. Mais, oui, dites-moi.
Si vous voulez, comme vous parlez de transparence, ça y a un point qu'on n'a pas abordé. C'est que son livre, qui est très lu et qui est recommandé dans un certain nombre d'établissements scolaires aux États-Unis, il est aussi très critiqué depuis ces dernières années parce qu'elle emploie le N-word, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le mot nègre, constamment, parce qu'elle fait parler les petits blancs du sud des États-Unis, ils parlent comme ça.
Ouais, mais oui.
Et... Mais du coup, beaucoup de parents demandent qu'on retire ce livre des lectures obligatoires.
Alors, dernière chose, évidemment, le compagnonnage avec Truman Capote, on a du mal à définir la nature réelle de ces relations entre elle et lui. C'est des relations de jalousie, d'émulation, c'est un peu compliqué.
Oui, ça a l'air d'avoir été très compliqué. Vous savez qu'il a laissé dire que c'était lui qui avait écrit L'Oiseau moqueur, en fait. Je pense qu'elle n'a pas dû beaucoup apprécier, parce que elle n'a jamais dit qu'elle avait écrit de sang-froid.
Mais oui. On comprend, effectivement.
Alors qu'elle semble avoir, c'est ce que dit votre émission très bien, elle semble avoir quand même apporté beaucoup de choses au livre.
Bien sûr. Merci infiniment Isabelle Auxerre pour ces éclairages sur cette écrivaine connue aux États-Unis, moins ici, et pour cause, elle écrit un seul livre. On la connaît mieux maintenant, grâce à ce récit, et grâce à vous madame. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le destin de Nell Harper Lee, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de France Inter, bien sûr, ou sur l'application Radio France. À la technique aujourd'hui, il y avait Gilles Gaillard. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Récit documentaire, Héloïse Rambert, Romain Weber, Adrien Mora, Simon Maisonneuve et Guillaume Malandras. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Coordination, Christophe Barrère. Lecture, Clément Stioli, Aurélien Labruyère. Réalisation, Marion Lelay, Flora Bernard et Stéphane Combes.